Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Point de vue, l'émission de Radio Grand Ciel qui vous permet, qui vous conjure de penser par vous-même et pour vous y aider, pour nous y aider. Eh bien, notre trio de choc, Olivier Lostis, psychanalyste et libraire, Dominique Desmichel, médecin et psychanalyste jungien, et Gabriel Seban, psychosociologue. Nous allons revenir sur une figure qui vous a tous marqué, ça je l'ai remarqué. C'est Ivan Illich qui a été au cœur de notre émission de septembre dernier, rappelez-vous. Nous avions été reçus par Olivier Lostis à la librairie Les Perluettes autour d'un écrivain, Jean-Michel Djian, qui venait de publier Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir. Vous avez souhaité revenir sur Ivan Illich parce que Ivan Illich a parlé de choses, a remis des choses en question qui nous intéressent vraiment. Là, vraiment fondamentalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'Ivan Illich ? Peut-être revenir sur des éléments de son histoire personnelle, passionnante, hein, parce que c'est un homme d'action aussi.
Oui, on peut redire quelques petits mots sur sa biographie. Il est né en 1926, hein, c'est un moment quand même bien particulier dans notre histoire européenne. Il naît à Vienne, il va mourir en 2002, en décembre 2002, à Brême, en Allemagne. Je crois, Christophe, que tu vas peut-être revenir un tout petit peu sur son parcours. Ce qu'on peut dire, c'est que son père vient d'une famille qui possède des vignes en Dalmatie, donc près de Split. Et sa mère, elle, est d'une famille juive allemande qui va être convertie. Voilà, on peut commencer par ça pour voir déjà qu'il y a quelque chose d'un petit peu cosmopolite.
Oui, très européen, d'une certaine manière. Hein. Très européen, puisque un père croate et une mère allemande. C'est quelqu'un qui, évidemment, a connu comme adolescent, plus qu'enfant d'ailleurs, la montée du nazisme. J'imagine que l'histoire de la famille Illich a été très mouvementée pendant cette période. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Comment ils l'ont vécu ?
Je ne sais pas si je peux répondre tellement à la question, mais en tout cas, il y a quelque chose autour d'une xénophobie, probablement, qui va le toucher. L'antisémitisme va monter, va devenir très prépondérant en Yougoslavie. Et en fait, Hélène va quitter Split et elle va aller se réfugier dans la villa de son père à Vienne avec ses trois enfants. Voilà, il va y avoir ensuite la Seconde Guerre mondiale, mais en 1942, Hélène, donc la mère de Illich, quitte l'Autriche en raison des lois antisémites, bien évidemment, d'autant que les nazis ont saisi la maison familiale.
Ouais. Bon, ils ont quand même mis du temps, hein. 42 simplement, donc deux ans que l'Anschluss était prononcé. Quatre ans, l'Anschluss, oui. Alors ensuite, après la guerre...
Ensuite, il va y avoir Florence. Ouais. Il va Florence. Lui, il va participer à tout ce mouvement un peu révolutionnaire. Et en fait, il va étudier, en fait, parce qu'il va être... C'est quelqu'un qui a une très, très grosse tête, avec probablement une fonction pensée qui est très dominante et qui fonctionne très, très bien. Et il va étudier la théologie, la philosophie. D'abord, il fait une partie de son éducation à Florence. Puis ensuite, il va aller dans l'académie, dans l'université pontificale à Rome.
Oui, parce qu'il se destine à la prêtrise, ça, on ne l'a pas dit. C'est quand même un élément important, évidemment, de son existence.
Au départ, il va être remarqué, je crois, il me semble que c'est le pape Paul VI, si je ne me trompe pas, qui le remarque et qui a envie d'en faire un diplomate, parce que c'est un peu la grosse tête, il est cosmopolite, il parle beaucoup de langues, et voilà. Et puis lui, il va décider, en effet, de devenir prêtre.
Oui, c'est un homme libre, on l'imagine peu, diplomate du Vatican, aujourd'hui.
Et c'est d'ailleurs assez amusant de voir que la première messe qu'il va célébrer, il l'a fait dans les catacombes à Rome, donc dans un lieu, au fond, emblématique des origines, on pourrait dire, du christianisme, à une époque où...
C'est un peu risqué.
Voilà, tout à fait.
Ouais. Alors, une chose qui m'a étonné, il a étudié la cristallographie. Pourquoi ? C'est curieux, ça, non ?
La cristallographie, juste un petit mot, c'est une analyse des structures de symétrie qu'il y a dans les cristaux.
Oui.
Donc
c'est hyper spécialisé,
quoi. Non, c'est pas spécialisé. C'est une démarche qu'on intègre quand on fait des études, par exemple, de chimie ou de physique et qui donne la possibilité de raisonner par analogie de structure. Voilà.
Ouais. Et ça, ça l'a aidé à développer sa pensée ?
En tout cas, Gabriel, tu dis probablement pas ça tout à fait par hasard.
Ben parce que je trouve que...
Comme si ça avait structuré un peu sa pensée.
Ben voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce souci de regarder les choses non plus simplement dans ce qu'elles sont, mais dans la symétrie qu'elles peuvent avoir ou l'écho qu'elles peuvent apporter, et notamment pour les institutions dont on sait que Illich les a...
Enfin, fortement critiquées.
Un petit peu quand même.
Oui. Ouais, ou beaucoup déstabilisées.
Oui.
J'avance un peu dans sa biographie hein, pour que voilà. En 1956, il est nommé vice-recteur de l'université catholique de Porto Rico et 15 ans plus tard, il publie Une société sans école. Alors là, un vice-recteur de l'université catholique qui écrit quelques années plus tard Une société sans école, on se demande ce qui s'est passé, non ?
Oui, alors là, on rentre directement dans le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on est en face de quelqu'un qui est humaniste, certes, mais radical dans la conception qu'il a du changement. Alors, je ne sais pas s'il faut commencer par l'école ou bien s'il faut aboutir à un processus culturel plus large pour envisager les choses, mais bon, il y a, et c'est pour ça qu'on s'est réunis pour y réfléchir, c'est que il y a matière à se poser un certain nombre de questions par rapport à la posture que Illich a par rapport à l'existant. Moi, je trouve que pour autant qu'il ait été fortement stimulant du changement, il en a été par certains côtés très dissuasif. D'ailleurs, il a été mis à l'index de pas mal d'institutions et de pas mal de... par le principe même de cette radicalité.
Alors, on va peut-être entrer vraiment pleinement maintenant dans le fond du débat. La pensée d'Ivan Illich, la raison pour laquelle finalement on est là aujourd'hui et pour laquelle on se réfère encore à lui, elle investit quatre champs fondamentaux. Il y a l'écologie, l'école bien sûr, la santé et la convivialité. Alors, ce sont des choses finalement dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il a des choses à nous dire ? On va peut-être prendre... question par question, l'écologie par exemple.
C'est pas juste avant peut-être de prendre point par point sa pensée, d'abord dans ce que tu dis, je crois qu'il y a deux choses tout à fait différentes. D'un côté, la santé, l'éducation, l'écologie, de l'autre côté, le convivialisme. Au sens où, comme le disaient Gabriel et Dominique tout à l'heure, c'est-à-dire que la pensée d'Illich, il me semble effectivement qu'elle s'intéresse à la structure. Et qu'il s'agisse de la santé, de l'école, ou de l'écologie, et notamment son intérêt particulier, emblématique pour l'automobile, il identifie à chaque fois une structure, effectivement, et des symétries entre ces trois domaines-là, on va dire. Et comme si, effectivement, bon, puis son maître mot, peut-être, qu'on pourrait le dire aussi comme ça, encore une fois, avant d'entrer dans le détail, sur le fait que, dans chacun des champs dont il parle, il cible, il vise, il critique ce qui est institué.
D'accord. Attends,
l'institution en elle-même.
Tu as dit la structure, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors justement, je pense que si on parle d'une analyse structurale pour Illich, il l'applique vraiment au phénomène institutionnel, quel que soit, encore une fois, le département auquel ça s'applique. Et il dit, voilà, l'institution, lorsqu'elle... prendre l'ampleur, parce qu'au départ, une institution existe pour résoudre des problèmes, pour atteindre un certain nombre d'objectifs, l'école pour permettre à chacun d'avoir une éducation, d'apprendre, voilà, etc., pour la santé, le soigner, pour, etc., etc. Lui dit, voilà, l'institution, à partir d'un moment, lorsqu'elle est très importante, lorsqu'elle est très grosse, eh bien, elle arrête de poursuivre finalement ces objectifs-là, qui ne sont plus que finalement le prétexte à ce qu'elle continue elle-même à exister et à s'entretenir elle-même. L'école s'entretenant elle-même avant de poursuivre des objectifs éducatifs, le système de santé s'entretenant lui-même avant même de penser à guérir ou à soigner, hein, même si elle le fait aussi. Hein, voilà, je crois que c'est son geste de penser, quelque chose comme ça, c'est autour de ça. Quand on crée un système, le système finalement finit par dépasser son objectif et surtout viser à s'entretenir lui-même.
Ouais. Et c'est là que c'est très curieux, parce qu'on pourrait penser que dans son humanisme, il est, je dirais, en dehors de la productivité. Mais il se met dans ce regard du système pour le dénoncer comme contre-productif. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parlait des institutions et dans la question que tu posais, sur, d'un point de vue mécaniste, par exemple, l'institution, c'est la bureaucratie. Et il prend la structure comme telle. Donc du coup, il va en chercher les dysfonctionnements mécaniques. Bon, si on prend le principe médical, eh bien, lui, il va l'appliquer au corps social. Et il va voir dans cette institution-là, qui est le corps social, eh bien, quelque chose qui tiendra en matière de santé d'une certaine forme de pathologie. Voilà, c'est pour répondre plus précisément.
Quelques juste petits exemples avant qu'on reprenne peut-être ça en détail, mais pour que les auditeurs comprennent bien. On pourrait dire, hein, par exemple, du côté justement de cette critique des institutions, que finalement, la médecine, d'ailleurs il le dit quasi comme ça, la médecine nuit à la santé. C'est-à-dire, il dit des choses tout à fait comme ça. Et on peut se rappeler, mais je pense qu'on en reparlera, et surtout que c'est bien d'actualité dans cette année 2021, ça nourrit beaucoup plus de gens que ça n'en tue, par exemple. Hein. On pourrait se dire dans l'autre,
dans un autre,
que ça guérit.
Que ça guérit, oui.
Tout à fait, absolument. Que ça le soigne même. Parce que guérir, c'est beaucoup dire, mais oui. Que ça n'en soigne. Tout à fait, tu as raison.
Donc il veut régénérer les institutions, ou il veut les changer
Il est contre l'institution.
Il est contre l'institution.
Un autre exemple pour suivre celui que Dominique vient de donner, qui est toujours assez rigolo, parce qu'il en a beaucoup parlé, de l'automobile. Oui. L'automobile nuit au transport. Nuit à l'efficacité du transport. Bon, quand on pense automobile, surtout au XXe siècle, il faut se reporter quand même quelques décennies en arrière, c'est l'outil de libération par excellence.
Ah oui.
C'est l'objet du XXe siècle, l'automobile. Ouais. En fait, lui, il dit, en gros, si on calcule le temps qu'il faut aussi pour financer le fait d'avoir une automobile, pour financer le fait qu'elle roule, etc., finalement, avec une automobile, au total, on va à 6 km/h. J'entrerai pas dans le détail du calcul, parce que je ne sais plus, mais donc on est moins efficace qu'à vélo. Alors, évidemment, c'est à nuancer, parce que si on prend l'autoroute, je pense que la voiture va assez vite. Mais si on est en ville, effectivement, je fais l'expérience quotidienne, personnellement, qu'à vélo, je vais beaucoup plus vite qu'en voiture. Quoi. Bon.
Alors, il y a quand même dans un dédouanement de cette pensée-là, de cette pensée-là par rapport à ce que tu dis qui nous fait bondir par rapport à la rapidité d'évolution des choses dans notre société, c'est que le principe même de ce fonctionnement est dans une perspective d'évolution dans laquelle il souhaiterait se placer. Mmh. Et cette perspective d'évolution nous amène à penser ou à nous poser la question, est-ce que finalement cette forme de contre-productivité-là, et il la pose comme telle d'ailleurs, n'est pas une question d'échelle de développement. D'échelle de développement. C'est-à-dire que, bien sûr, si on prend la voiture en tant que telle et qu'on la regarde, on dit elle va beaucoup plus vite qu'un vélo, si je veux aller. Bon, mais si on voit le phénomène d'échelle de développement des voitures, on peut être amené à se reposer la question d'une autre façon. Ouais. Est-ce que finalement, on est. Voilà.
Et de manière très pratique, dans un autre domaine, on sait bien que les communications actuellement deviennent si denses et si envahissantes. En fait, plus personne n'écoute ou ne se fait entendre. Quand on regarde le temps que l'on passe maintenant à trier ses courriels par jour, mais c'est absolument hallucinant. Voilà un autre exemple.
Ouais. Est-ce qu'on peut maintenant, peut-être, ça serait intéressant de parler domaine après domaine. Peut-être, si vous le souhaitez, commencer par l'écologie, parce qu'évidemment, on parle un peu moins d'écologie depuis un an à cause de la pandémie, mais c'est au cœur des préoccupations de chacun, notamment des jeunes générations. Alors, qu'est-ce qu'il nous racontait à propos d'écologie ?
Je crois que la première chose qu'il dit à propos d'écologie, et ça va en ligne directe avec ce qu'on vient de dire, c'est qu'on est dépassé par la technique. Et la technique elle-même, donc, est extrêmement polluante parce qu'elle nous dépasse, encore une fois, parce qu'elle s'entretient elle-même comme une nécessité absolue, et que plutôt que de se poser la question des nuisances d'une technique, on va améliorer la technique ou en créer une autre qui va corriger les effets de la technique, plutôt que de se demander pourquoi cette technique-là, tout d'un coup, nous dépasse. Hein, c'est l'idée, toujours, de l'outil qui procède à une espèce d'inversion en disant que l'outil trop développé finalement cesse d'être un outil au sens de l'utile, c'est le même mot, outil utile, pour être au contraire utilisateur et consommateur.
On en devient l'esclave finalement.
Et on en devient l'esclave et nous devenons l'outil de l'outil finalement. L'outil d'entretien de l'outil en quelque sorte. C'est-à-dire, nous sommes conducteurs d'une voiture qui ne remplit pas ses objectifs, mais nous sommes assujettis à cette voiture en tant que conducteur. Voilà, nous sommes l'outil de la voiture.
Jusqu'à ce que finalement l'outil nous congédie, oui. Ce qui pourrait bien nous arriver avec l'intelligence artificielle par exemple.
Oui, effectivement.
Qu'est-ce que dit
on voit bien du côté, en tout cas, de la voiture, hein, que pendant très très longtemps, la voiture a été perçue comme celle qui nous permettait de faire de plus longs et plus rapides déplacements. Probablement, ça reste encore le cas. Mais quand on voit, surtout dans notre région de l'Eure-et-Loire, le nombre de gens qui vont travailler sur Paris et le temps qu'ils passent dans les transports, il y a quelque chose, en effet, qui est problématique. Même si, probablement, avant... on passait aussi beaucoup de temps dans les transports. Il y a une étude qui a montré qu'a priori, les Américains passent autant de temps dans les transports actuellement qu'en 1880. Mais on n'avait pas la même perception, parce qu'avant, pour aller au village d'à côté ou pour aller au marché, par exemple, hein, la ville était à 10 km, eh bien, il fallait 2 heures pour y aller, puis 2 heures pour rentrer si on y allait à pied, ou même si on y allait avec une petite carriole, ça prenait beaucoup de temps. Mais subjectivement, la vie et la vitesse n'est pas perçue de la même manière. Donc même si on y passe 2 heures pour aller à son travail, ça nous paraît maintenant tout à fait insupportable. Et pour reprendre tous les travaux qui ont été faits en raison de l'accélération du temps et cette vitesse omniprésente qui, comme disait Olivier, maintenant nous contraint de manière terrible.
Ouais. Alors je vais me faire l'avocat, je ne sais pas si c'est l'avocat du diable, l'avocat de l'automobile, moi qui n'ai même pas le permis de conduire. Tout de même, la voiture, c'est ce qui a permis aux Populo Parigo de passer l'été, un peu de temps sur les plages l'été.
C'est sûr que... Le mouvement de pensée d'Hiditch, comme le disait Gabriel tout à l'heure, est radical. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas dans ses démonstrations à équilibrer sa position. Il cherche à contrer des conceptions, des a priori dans lesquelles nous sommes tous enfermés. Je crois que c'est ça sa tentative aussi. C'est de prendre un contre-pied, de se faire justement peut-être l'avocat du diable, comme tu disais, pour dire voilà, la voiture c'est nul, ça ne veut pas dire que la voiture est nulle, et ça ne veut pas dire qu'il a totalement raison peut-être dans sa démonstration, mais en tout cas, cette position, cette posture très, très décalée, d'inversion, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il il était peut-être très souvent, sans doute, même convaincu, mais en tout cas, nous, on peut l'entendre, même si on n'est pas forcément convaincu par tout ce que peut dire Hiditch, comme un outil qui nous permet d'éclairer d'une manière dialectique, quoi. Il est en contrepoint d'une pensée dominante qui ne cherche pas forcément à réfléchir de nos habitudes, quoi, en quelque sorte, de pensée, de nos habitudes d'action. Et lui dit, non, mais posez-vous la question, quoi. Moi, si je regarde à l'envers, je vous montre que ça a aussi une vraie absurdité.
Oui. Et alors, là encore, il y a une manière, une manière différente de regarder le questionnement qu'il nous suggère. On peut le voir à l'époque dans laquelle il se situait, qui était là vraiment extrêmement radical, parce que le problème écologique tel qu'on le connaît maintenant n'a plus rien à voir avec celui qu'il rencontrait à cette époque-là. Mais au moins a-t-il le mérite de poser la question sur le sens du progrès.
Oui, c'est ça. Hein.
Voilà.
C'est une interrogation finalement sur le sens,
sens de
la marche du monde. Hein. Oui,
voilà,
tout à fait.
Tout à fait. Et donc là, la perspective, je dirais, c'est comme un double fond. On peut en rester, je dirais, à la question et au regard posé sur l'élément sur lequel il nous suggère de réfléchir, mais on peut aller au-delà et se dire en transposition, aujourd'hui, mais s'il le disait à son époque, même si effectivement c'était radical, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui et quelle relativisation on en fait?
Ouais. Ah, une question que je me pose, parce que quand il développe sa pensée donc, autour de l'écologie, on est dans quelles années à peu près? C'est années 60, 60, 70 des années 60. Est-ce qu'il avait des alliés? Parce que je me dis que la gauche de l'époque, par exemple, était une gauche pour l'industrie, pour l'emploi, bien évidemment, le développement des techniques, etc. Est-ce qu'il avait, est-ce qu'il avait des appuis, des alliés? Est-ce qu'on s'intéressait à sa pensée dans la gauche marxiste ou pas d'ailleurs, mais
déjà il faudrait se demander si Nietzsche raisonnait comme ça, je crois.
Oui.
Parce que je suis pas sûr qu'il Nietzsche ait dit à quelque moment que ce soit je suis de gauche ni je suis de droite. Je crois pas en fait.
Je pense pas que c'est ça.
J'ai pas l'impression. J'ai pas souvenir.
C'est la question que j'allais vous poser.
Ouais, je pense que ça.
Pas du tout.
C'était un penseur. Hein. C'était un penseur visionnaire.
Mais il y a des penseurs engagés. Il y a des penseurs politiques. C'est vrai.
Il y en a. Engagés sur. Pas au sens politicien du terme. C'était un engagement plus humain. Et c'est ça le paradoxe, c'est que il était humain, certes, mais très, pour certains, trop radical. Ça lui a généré énormément d'ennuis, mais ça a attiré aussi, par son côté penseur visionnaire, énormément de personnes qui venaient vers lui pour...
Oui, parce que Olivier, tu le disais, ça, il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir, mais qui allait le voir ?
Énormément de gens. On peut penser en tout cas que le mode de fonctionnement à Cuernavaca, là, au Mexique, entre 1966 et 76,
je crois, les dates...
Voilà, 66-76, ouais. Voilà, pendant... Voilà, était quand même un mode de fonctionnement un peu particulier qui était... plutôt ancré dans quelque chose qui était classiquement étiqueté à gauche. Voilà ce qu'on pourrait dire.
Alors qu'est-ce qui se passe à Cuernavaca, au Mexique, pendant 10 ans, là, c'est-à-dire ?
Il y a un mode de fonctionnement qui est très, très particulier. Avec
un mode de fonctionnement, donc Illich est là-bas.
Très qu'est-ce, horizontal.
Qu'est-ce qu'il fait là-bas ?
Où on partage, où on discute, où les élèves interrogent les enseignants.
C'est une école.
On écrit beaucoup, voilà, c'est une sorte de grande école. Où, semble-t-il, on explore absolument tout. Et il suffit qu'un des élèves dise « Ah oui, mais on peut aussi se poser cette question. » Et hop, il y a un petit groupe qui va réfléchir sur cette question-là. Hein. Donc ce mode de fonctionnement est tout sauf un mode de type universitaire. Hein. C'est vraiment tout à fait à l'opposé. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler ou si on en parle un petit peu plus tard, c'est pour ça que Illich va beaucoup critiquer l'école en disant que, enfin lui, il va proposer même une sorte de séparation entre l'école et l'État, au fond. Alors qu'actuellement, c'est l'État qui, voilà, on sait bien de plus en plus, même en cette année 2021 où il est question de supprimer la possibilité d'enseigner à ses enfants à la maison, que l'État a envie de reprendre, pour des raisons dont certaines sont légitimes, bien évidemment, d'autres peut-être discutables. Voilà, donc c'est quand même un mode de fonctionnement très, très particulier sur la réflexion.
On y reviendra peut-être en parlant de l'enseignement. Moi, je voudrais simplement qu'on reste 5 minutes peut-être sur l'écologie, l'environnement, sur l'opposition d'Illich à la voiture, par exemple. Est-ce qu'il avait une pensée globale, par exemple, de se dire, bah, effectivement, si on supprime l'automobile, on supprime une industrie, on met au chômage des milliers de gens. Est-ce qu'il avait cette pensée, ce souci, tout simplement, de savoir ce qu'il adviendrait de l'homme si on supprimait
Je ne crois pas qu'il ait pensé en termes économiques, en fait.
Non.
Je ne pense pas. Je pense pas, mais par contre, il avait déjà évoqué, mais il n'était pas le seul à l'époque. Hein. Il y avait d'autres écologistes, un peu de précurseurs de l'écologie politique actuelle, qui avaient déjà dit voilà, le vélo, voilà, les transports en commun, enfin, qui avaient déjà aussi des projets de villes, de villes utopiques, par exemple, où. Tout était organisé de manière à préserver l'environnement au maximum, à éviter aussi l'individualisme extrême, c'est-à-dire le fait de posséder son propre moyen de déplacement, par exemple, quoi, qui est chose contre laquelle il était vent debout. Mais il était aussi vent debout contre, sans être marxiste, évidemment, hein. N'oublions pas qu'il était prêtre, alors ça fonctionne pas très...
Il y a eu des prêtres marxistes.
Oui, mais pas beaucoup, et il n'en faisait pas partie. Enfin, je crois pas. Mais il avait quand même... Il était collectiviste. Il avait des pensées de l'usage communautaire, mais ça aussi, il faut bien voir que c'est pas quelque chose qu'il invente, c'est quelque chose qu'il remet au goût du jour, mais la question des communs, par exemple, existe dans les sociétés occidentales au moins, depuis le Moyen-Âge, et puis dans les sociétés non occidentales, elles ont objectivement très longtemps vécu sur l'idée de commun, quoi. Oui. Le commun, c'est-à-dire des outils collectivisés, en fait. Hein.
Est-ce qu'il y a des héritiers, aujourd'hui, de la pensée écologique d'Janic?
Certainement. Ils s'en réclament tous, même. Hein, plus
ou
moins. Oui, plus ou moins, oui, bien sûr.
Et puis,
pardon.
Vas-y, Gabriel.
Non, moi, j'apportais. C'est une question très importante que tu poses là. C'est que aujourd'hui, on peut être écologiste en étant relativement radical de certaines réalités, par rapport à certaines réalités qu'on ne prendrait pas en compte. La question est de savoir si effectivement, on sait tous qu'il faut diminuer. C'est une petite aparté, mais qui a du sens aussi par rapport à notre époque. On sait tous qu'il faut diminuer effectivement les déchets. On sait tous qu'il faut, par contre, continuer à faire tourner l'économie. Alors ça nous pose un petit paradoxe quand même monumental. On sait également qu'il faut que, sur le plan du taux de carbone, on soit... Bon, d'accord. Mais on part de l'écologie et on découvre ou on redécouvre à un moment ou à un autre l'économie. Alors que je pense qu'il serait intéressant et fondamental de partir de l'économie et de la rendre écologique. Et de la rendre écologique. C'est-à-dire de prendre le problème sur la base du fonctionnement social que génère l'économie pour retrouver effectivement à travers du changement, comme le préconiserait éventuellement Illich, une façon de mieux vivre notre transmission à ceux qui vont nous suivre.
D'accord. Alors, est-ce qu'une écologie... Pour parler d'écologie, économie, est-ce qu'une écologie efficace, si j'ose dire, peut s'accommoder de la société capitaliste d'aujourd'hui, selon vous? Là, on abandonne un peu Illich.
On s'éloigne d'Illich, là.
Oui, je sais bien, mais ça me titille, cette question.
Je ne me sens pas du tout compétent pour répondre là-dessus, mais je crois vraiment que Illich ne s'occupait pas des questions d'économie simplement parce que c'était aussi une époque où on pouvait encore penser que l'économie était subordonnée aux choix politiques. Parce qu'en fait, ce que fait Illich, c'est la politique. Il propose un système politique, c'est-à-dire un système de société, de fonctionnement ensemble, quoi, autour des questions de convivialité, bien sûr, qui a des héritiers très contemporains, peut-être pas tant dans la sphère politique, mais dans la sphère intellectuelle, et notamment en France. Il y a vraiment, pas seulement en France, mais en France, un mouvement très important qui s'appelle convivialisme.
Le mouvement convivialiste.
Je n'avais jamais entendu parler du convivialisme avant d'entendre parler d'Ivan Illich. C'est quoi le convivialisme?
J'avais marqué quelques... Il y a eu un premier manifeste qui a été publié en juin 2013 et puis un autre en février 2020.
Absolument.
Et j'avais marqué les noms de gens qui... Voilà, Barbara Cassin, Noam Chomsky. Alors, vous voyez, on est déjà au bout du monde.
C'est très à gauche, là, Noam Chomsky.
Mireille Delmas-Marty, voilà. Mais aussi André Grimaldi, Roland Gori, Eva Illouz, Corinne Pelluchon, Jean Ziegler. Enfin, aussi tous ces gens, tous ces philosophes qui réfléchissent et qui publient actuellement. Tous ces gens-là, Corinne Pelluchon... Elle sort un livre tous les deux ans. Enfin, voilà, c'est des gens qui viennent quand même aussi irriguer notre pensée, notre réflexion.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi Edgar Morin, par exemple. Et puis tout ça, pour le manifeste de 2020, était coordonné par Alain Caillé, qui est le fondateur du MOS, mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, du nom de Marcel Mauss, qui est un anthropologue qui avait développé la théorie du don, du don et du contre-don. C'est un système
d'une forme particulière de l'échange.
C'est ça.
Mais en deux mots, peut-être, non?
Oui, d'accord. c'est en deux mots, ça va être... Bon, en fait, Alain Caillé a repris ces choses-là il y a très longtemps, dans les années 80, et il a fondé le MOS et la revue du MOS autour d'une proposition d'un anthropologue qui s'appelait Marcel Mauss, M-A-U-2-S, qui disait, voilà, l'économie résonne sur le... Et donc Alain Caillé, reprenant ça, disant que voilà, l'économie fonctionne sur le principe de l'homo economicus, c'est-à-dire celui qui va toujours faire le calcul le plus juste dans son intérêt. C'est la base même de la science économique, hein, celle-là, à peu près. Marcel Mauss avait repéré, lui, dans tout un tas de sociétés traditionnelles, un autre système qui était le don et le contre-don. C'est-à-dire que le mouvement n'est pas celui de prendre d'abord l'intérêt, mais de donner d'abord pour contraindre l'autre à contre-donner. C'est-à-dire que alors après, ça... Ou le potlatch, voilà, ça c'était le modèle dont je ne sais plus quelle société amérindienne. Oui, je ne sais plus. Je ne sais plus quel c'est possible. Et en tout cas, voilà, donc le convivialisme, c'est exactement issu à la fois d'Illich et de cet ensemble-là d'anthropologues, d'économistes, de sociologues, de philosophes qui se sont mis à réfléchir à un système différent, un autre système qui ne partirait pas du principe que l'homme est intéressé et fait le meilleur calcul à chaque fois qu'il agit, mais au contraire, qu'il va d'abord faire un mouvement vers l'autre comme ça pour contraindre l'autre à entrer dans l'échange.
C'est vraiment, alors là, c'est une subversion totale du système économique, et on se dit, si ça marche, ce serait merveilleux. Mais... Ouais.
On se dit ça, et en même temps, c'est la seule façon de considérer que, par exemple, l'individu n'a pas un comportement rationnel. Oui. C'est la seule façon de l'intégrer, en quelque sorte, parce que dans la science économique, on ne peut pas intégrer l'irrationalité en soi. Bon, je suppose qu'il y a des économistes qui s'attachent à le faire, mais on voit bien que la science économique, d'une certaine façon, dérape à chope sur cette question, puisque... jusqu'à maintenant, elle n'a pas été tellement en mesure de prévoir, ce qui est quand même l'idée d'une science, très souvent, d'anticiper, de prévoir. La science économique est plutôt capable de constater, d'expliquer a posteriori, hein, mais pas réellement de prévoir à ce jour. Donc peut-être que son paradigme ne fonctionne pas. Et donc ça, c'est le convivialisme qui est issu notamment donc, de la pensée d'Illich. C'est ça, c'est de dire, voilà, il y a une autre façon de faire qui est d'abord de faire ensemble. Un peu correspondant ça à ce que Marcel Mauss avait repéré dans des sociétés traditionnelles. Donc on fait d'abord ensemble avant de vouloir prendre un intérêt, quelque chose comme ça. Quoi.
Avant de parler de l'école, je me tourne vers Gabriel parce que, vous le savez, à chaque fois, Gabriel nous régale avec un récit de son invention. Je vous propose de l'écouter tout à fait cessante.
Alors, juste une petite introduction. Pour moi, j'ai été très, très sensibilisé par tous les thèmes sur lesquels Illich nous a conviés, même si, effectivement, sa forme de radicalité, comme on le disait tout à l'heure, pourrait être nuancée. Donc, je me suis placé en tant qu'individu et j'ai essayé de replacer un certain nombre de thématiques que j'avais chopées dans son discours, sur ma réalité quotidienne. Voilà. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est quelque chose que j'ai intitulé « À toi qui es moi ».
Radio Grand Ciel.
Miroir, gentil miroir, tu me connais si bien. Mon ordinateur confident. Tout est simple pour répondre à mes questions. Tu es pourtant programmé, malgré moi, à transmettre mes données personnelles. Ce n'est pas très loyal de profiter de ma dépendance. Mais ça m'est égal. Pour rester positif, je me dis qu'on s'intéresse à moi. Et ce n'est pas si fréquent dans le grand anonymat des gens. L'échelle des choses. L'échelle des choses a pourtant transformé mon rapport avec les autres, sans que je l'aie vraiment voulu. Dans ma bulle, c'est moi qui décide. Du moins, j'en ai l'impression. C'est ce qui importe. À force de t'interroger, ordinateur confident, miroir facile, tu es devenu ma machine à penser, le prescripteur de certaines de mes idées. Tu ne t'en es peut-être pas aperçu, mais je suis en train de basculer dans un changement d'attitude et de comportement. Tu seras bientôt surpris de mes nouvelles façons de réagir, toi qui me suis masqué derrière mon écran. Comment cela s'est-il produit? Je ne sais pas vraiment. J'avais envie de remplir mon temps autrement. On est... N-A-I-T, comme on est, E-S-T, et puis un jour, sans s'en apercevoir, on l'a changé. Il faut dire que tout était devenu difficile dans ma tête. Le bien, le mal se jouaient de ma confusion nourrie par leur paradoxe. Fallait-il consommer pour préserver des emplois ou limiter les déchets et les gaspillages, quoi qu'il m'en coûte? Et quoi qu'il en coûte à l'économie. Jusqu'où jouer le jeu du mérite et de la valeur individuelle que la concurrence exacerbe? Fallait-il au contraire faire valoir la légitimité de mon déploiement personnel, peu enclin à se soumettre à des rythmes accélérés? Est-ce que je devais me compliquer la vie pour réduire à ma mesure la pollution ou m'en affranchir devant la masse de déchets produits par un système économique peu scrupuleux? Comment faire prévaloir mon confort en regard de la précarité ambiante? Mais comment agir personnellement devant les difficultés à vivre d'un nombre croissant de mes semblables? Et quid de ma perméabilité aux problèmes que rencontrent des migrants que nous n'accueillons pas vraiment? Était-il concevable de valider mon inaction à l'égard de leurs demandes d'aide sous couvert d'autres priorités personnelles? Pouvais-je me montrer avare de ma liberté individuelle sans tenir compte plus que cela de l'intérêt commun? Fallait-il cautionner par le vote le jeu démocratique ou le refuser sous couvert d'être agi une fois l'élection terminée? Étais-je contraint d'accepter les formes d'impuissants intérêts divergents ou fallait-il cautionner des formes d'autorité au risque qu'elles deviennent radicales? Tu vois le bazar? Comment ne pas perdre mon unité dans ce sac de dissonance? J'en étais désabusé, et ma quête du bonheur, tu le concevras, ne pouvait se diluer dans le flot de cookies dont tu m'as breuvé. On est façonné par nos relations aux autres. Il fallait que je me reconnecte au sens, autant qu'à mon identité. Mon espoir d'harmonie et de cohérence avait supposé jusque-là ma conformité. Mais cette obéissance n'a su faire taire ma conscience. Tout autour de moi semblait s'accommoder des réalités chaotiques. Et j'étais renvoyé à mes états d'âme. Certains m'ont qualifié de rêveur, d'utopiste, d'autres m'ont pourvu de noms d'oiseaux exotiques. J'avais perdu confiance en ce que je pensais par moi-même, et cela écrasait ce qui m'importait. Je m'adaptais, dans l'illusion d'être ainsi mieux accepté. Et après? Ah, c'est sans doute ce que tu penses. Je te sens gentil miroir pragmatique, bien campé derrière la certitude de l'utilité de ta connaissance, au risque d'une indifférence des réalités qui pourraient être préjudiciables. Tu es en décalage. Ta façon de produire de la connaissance, de l'argent ou autre chose induit finalement un rapport de domination, permets-moi de te le dire. Et cela est contre-productif. La nuit dernière, mes paupières se sont ouvertes sur une évidence. M'adapter sans autre perspective, sans projet, est épuisant. Je me suis dit qu'il était temps de commencer ma révolution tranquille. Transcendance, lucidité, utopie, seuil atteint de ma propre tolérance, peu importe. Ces fausses barbes m'inhibaient. Je suis gavé du prêt-à-penser, de mes habitudes rouillées qui assoient au final l'immuabilité de l'existant. Je deviens un combattant pour l'humanité. Fais-le savoir à tes réseaux sociaux, miroir obéissant.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Voilà un texte plein d'interrogations et on en est tous un peu là, non, peut-être, si à partir du moment où on commence à...
Je pense que le projet de réflexion d'Illich, auquel il n'y a pas eu de réponse formelle et aboutie, se poursuit à travers, je dirais, cette forme de société qui est poussée, je dirais, à son extrême sur des enjeux d'évolution et de choix qu'on sera à un moment ou à un autre amené à faire des choix, à prendre des décisions. Voilà.
Et moi j'aimais bien aussi dans ton texte le début où, on voit bien qu'ils parlent à l'ordinateur, que l'ordinateur est une sorte de complice, et puis qu'il est un miroir narcissique au départ, et puis qu'après, il se révèle être un traître parce qu'il transmet les données. Et puis, au fond, quand même, on voit qu'il y a, un vrai dialogue, quand même, hein, et ensuite, toutes les questions qui émergent.
Ouais. Ben oui.
Illich n'a pas eu le temps de penser le numérique et les réseaux sociaux, évidemment. Par
oui, non, mais là, Gabriel, il en parle bien, hein, oui. Là-dessus. Hein.
Oui, je pense qu'il aurait dit quelque chose comme ça, en tout cas. Ce qui fait penser quand même à une chose, c'est effectivement, il faut aussi placer Illich dans son moment historique. C'est vrai qu'il a à la fois une actualité très grande, mais il faut faire comme Gabriel, c'est-à-dire que il faut procéder à une adaptation. En fait, il faut tirer des conséquences de ce qu'a dit Illich dans un monde qui est très différent de celui dans lequel il a vécu, en fait. Il a vécu et pensé. Il y a quand même une chose que je trouve assez intéressante dans son parcours de vie aussi, c'est qu'Illich, quand même, pendant très longtemps, a procédé à une forme de retrait, quoi. Il s'est retiré. Il a cessé de participer, en quelque sorte, assez tôt, hein. Sans doute que, enfin, il a été enseignant jusque dans le milieu des années 80, je crois, à Brême, hein, voilà. Et puis ensuite, il n'est pratiquement plus intervenu. Et d'ailleurs, il a disparu. Ses livres n'étaient plus disponibles. Et puis là, il revient au bout du jour parce que peut-être que, effectivement, on en tire quelques conclusions. Je voudrais revenir juste sur un petit truc aussi, une question que tu posais tout à l'heure, Christophe, qui était de gauche ou de droite, parce qu'effectivement, Dominique l'a dit, les gens qui aujourd'hui, par exemple, ont écrit dans le manifeste du convivialisme, sont tous des gens très marqués à gauche. C'est même pas une gauche douce, hein, c'est une gauche assez radicale, critique. Hein, voilà. C'est vrai que ça pose une question. Est-ce que du coup, on peut dire qu'Illich est de gauche, en fait, pour revenir à ta question tout à l'heure. Et en fait, je me suis dit que si on le replaçait dans son époque, probablement qu'on ne peut toujours pas le dire. Au moment où il intervenait, le mur n'était pas tombé, par exemple. Donc il y avait toujours deux systèmes qui s'opposaient, et je pense deux systèmes auxquels lui s'opposait. D'un côté, le système capitaliste, contre lequel il avait...
On ne le voit pas applaudir l'économie mondialisée,
non,
etc.
Pas du tout.
On a du mal à l'imaginer.
Bien sûr, c'est même une critique inédite et visionnaire du monde néolibéral et de ses travers. Mais je crois que si imaginons que le mur soit tombé de l'autre côté et que le système communiste tel que l'URSS le proposait, si ce système-là avait gagné, je pense qu'on aurait aussi dit que Illich avait une critique extrêmement visionnaire de ce système-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans cet affrontement-là des deux mondes qui sont, parce que le monde communiste d'avant la chute du mur et le monde capitaliste sont un peu les deux grands monstres qui font qu'on se colle au système de gauche ou de droite, on va dire, pour aller extrêmement vite, quoi. Et il était contre ces deux systèmes-là, contre l'institution, l'hyper-institution soviétique, et puis contre aussi l'hyper-exploitation du désir contre le bonheur. Ça, c'est un sujet qui est très cher à Dominique, qui l'évoque très souvent dans une autre émission, d'ailleurs, le désir contre le bonheur, quoi, enfin, quelque chose comme ça. Donc il était opposé à tout ça, quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est assez logique que ceux qui se saisissent de la pensée d'Illich soient plutôt de gauche, au sens où ils sont opposés au seul système mondial qui nous est proposé, ouais, finalement, quoi. Ouais. Quelque chose comme ça.
Depuis la chute du mur.
Voilà, depuis 1987, voilà.
Mais... Et puis, la gauche n'était pas venue au pouvoir non plus, en 1981, ce qui a été une épreuve de réalité, si je puis dire, pour la gauche, et pour beaucoup de gens aussi, une sorte de mise en situation douloureuse, difficile, et pour certains, le sentiment qu'il y avait une sorte de trahison, hein, d'un idéal. L'autre élément, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup du collectif et de la critique des institutions, il ne faut pas oublier la dimension aussi très, très, très individuelle, hein, chez Illich. Hein.
Le sujet pensant, moi j'ai le sentiment, en vous écoutant, que c'est aussi sa grande affaire, quand même. Ouais. Le fait de retirer, par exemple, les enfants de l'école,
oui, oui, oui.
C'est la... comment dire, tous les États totalitaires arrachent au contraire les enfants aux familles pour...
D'où l'idée vraiment de l'autonomie, hein, et que tous les systèmes, ils doivent être faits pour renforcer l'autonomie de chacun, pour accroître son champ de conscience, son champ d'action, en particulier sur le réel. Ça aussi, je pense que c'est très important. Donc il a aussi beaucoup... Il est dans une approche très très singulière, très personnalisé. On peut renvoyer à toute la pensée même de Mounier, hein, par exemple, dans le domaine plus du christianisme, bien évidemment, mais il y a quelque chose aussi qui est très important. Donc, cette critique des institutions, oui, cette critique de l'universel en tant qu'elle se substitue au désir de chacun et où elle impose son système, non pas peut-être en raison d'une perversion intrinsèque, on en a parlé, mais en raison du fait que la finalité est oubliée et le moyen prend la place de la finalité. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait terrible. Et on voit bien ça, il me semble, dans les réseaux sociaux, puisque t'en parlais, Christophe, à l'instant. Maintenant, on a l'impression que ce qui était fait pour la communication se retourne contre lui-même, puisque maintenant, chacun est dans un petit monde endogame où on ne communique qu'avec du même. Donc, j'allais dire, on perd toute la puissance de l'expérience de l'altérité, qui est d'abord que l'autre est différent de nous et que c'est comme ça qu'on avance dans l'existence.
Alors, avant d'aborder la santé, parce qu'il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, j'ai quand même une question à vous poser sur la critique de l'institution, finalement. Est-ce qu'il l'a appliquée aussi à l'Église ? J'entends pas parler de...
C'est pas très simple, ça, hein, parce que...
Il a eu des positions qui ont été jugées très antinomiques avec ce qu'on attendait, effectivement, d'un prêtre. Hein. Mais il n'a jamais abandonné la posture de...
L'habit,
de l'habit, et d'une part, et puis de l'esprit. Parce que en fait, on est en train de dire et de regarder à la loupe la façon dont il concevait les choses, mais il était quand même, quelqu'un qui avait confiance encore, puisqu'il a créé des choses dans ce sens-là. Cette institution qu'il a créée était une perspective positive d'aller au bout de ce qu'il envisageait. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si on aurait la même confiance dans un avenir.
Sans doute pas, à tort ou à raison.
Donc, je pense que c'est le propre du penseur, ça. Oui. C'est quelqu'un qui arrive à s'affranchir de la nécessité de se cantonner dans un domaine déterminé. Il a décloisonné énormément les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on a par rapport à certains experts, par rapport à certaines façons d'analyser le réel, qui est par ailleurs très, très disséqué, c'est que...
Tout est segmenté.
Tout est segmenté. Oui. Et ça, je trouve que c'est un apport, une stimulation qui devrait refaire son apparition. Un meilleur décloisonnement pour trouver effectivement un regard autrement sur les choses.
Oui. J'ai le sentiment aussi d'un homme, ça vous me dites, vous le connaissez beaucoup mieux que moi, donc moi je m'appuie sur ce que vous dites, qui est dans l'ouvert. C'est-à-dire pas dans un système clos, mais qui reste dans l'ouvert, un peu comme Edgar Morin peut-être, ou...
Je reprends ce que tu disais du côté du christianisme. Je connais pas assez, mais il me semble, dans ce qui m'en reste, sous réserve de vérification, c'est qu'il a quand même dit du côté du christianisme que l'époque moderne n'était ni l'accomplissement du christianisme, ni la négation du christianisme, mais qu'elle quand même quelque chose autour de sa perversion. Hein. Il a été quand même très très critique par rapport à ça, hein, il me semble. Hein. Oui. Voilà, même si j'ai pas le sentiment qu'il ait écrit de livre directement là-dessus. Voilà, mais ici, il parle justement, il parle des transgressions. Par exemple, il a un passage où il parle du bon samaritain. Voilà, il dit le bon samaritain, c'est l'autre justement. Voilà, il y a les trois qui descendent là de, je sais plus, de Jérusalem à Jéricho, et puis il y a le bon pensant et le bon pensant, et ben il s'arrête pas. Et puis c'est l'autre, c'est celui qui justement. Voilà, donc il insiste bien aussi sur cette valeur de l'altérité comme peut-être comme valeur fondamentale aussi du christianisme.
Ouais. Il nous reste 12 minutes, excuse-moi. Oui, Olivier, tu voulais dire.
Non, mais je pense que ça prolongeait ce qu'on vient de dire, prolongeait ce qu'il disait juste avant, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas oublier que Illich n'a jamais été collectiviste. C'est-à-dire qu'en fait, le convivialisme, la convivialité, c'est l'assemblée d'individus très autonomes, encore une fois. Et ça, effectivement, je crois que c'est quelque chose qui est très important pour le sujet que tu veux aborder juste après, qui est celui de l'école, de l'éducation. Ou de la santé peut-être.
Alors, il ne reste plus que 10 minutes, très franchement, à peine 10 minutes. Bon, on a parlé un tout petit peu de l'école, mais pas du tout de la santé.
Ah oui, il faut en parler.
Je ne sais pas ce qui est le plus urgent.
Non, il faut en parler. Ouais,
bon, on voit bien, pour reprendre le texte de Gabriel, quand même, que Illich, je pense qu'il dirait bien, avec la machine, l'homme devient un serviteur. Il devient esclave de la machine. Il me semble que c'est comme ça que commence le texte de Gabriel. C'est-à-dire, on est devant notre ordinateur, on ne peut plus s'en passer. Et il suffit de remplacer ordinateur par smartphone maintenant pour voir combien il y a quelque chose qui est terrifiant, puisque maintenant, on fait tout avec le smartphone. Et que, même si, bien évidemment, ça rend plein de services, on sent bien que derrière, on peut devenir l'objet du smartphone et non pas que le smartphone soit notre objet à nous. Ouais.
La santé, on est en plein Covid, alors qu'est-ce qu'il nous dit de la santé, du système médical, notre ami?
Lui, il est très très critique enfin, vis-à-vis de la santé, comme on disait juste avant de commencer l'émission. Moi, quand j'ai lu Némésis médical, c'était pendant mes études de médecine, autant dire il y a quelques décennies, et ça m'avait vraiment énormément marqué. Je pense que c'est la première fois que je me suis dit que la médecine, c'était pas que apprendre à reconnaître des maladies, faire le diagnostic et donner des médicaments, mais qu'il y avait une réflexion sur le fond et que c'était pas quelque chose d'aussi simple qu'une histoire de machine. Donc je pense que lui, il est vraiment extrêmement, extrêmement critique. Alors, moi, je peux pas être aussi terrible que lui, parce que même si on sait très, très bien que l'ombre de la médecine est quelque chose de très très importante. Mon lapsus de tout à l'heure sur lequel on pourrait revenir n'est pas complètement aussi dramatique que ce qu'il a l'air de dire, parce que c'est vrai que pendant toute une période, c'est beaucoup beaucoup moins vrai depuis par exemple le mouvement des soins palliatifs, mais je crois qu'Illich il a cette phrase où il dit: le malade, après le parcours de soins, il meurt guéri. Et mais je vous assure que dans les années entre 1980 et puis l'émergence des soins palliatifs, d'abord en Angleterre et puis ensuite en France, la majorité des gens qui avaient des cancers mouraient de leur chimiothérapie. Voilà, ça peut paraître incroyable. Et qu'est-ce qu'il nous raconte, des Michel, là? Mais si, moi j'ai connu ça de près, je faisais des chimiothérapies à domicile. Et à un certain moment, on était dans une espèce d'autoroute où on avait des lunettes noires, un moteur qui marchait tout seul, et on continuait comme ça. Le cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue, pour reprendre l'expression dans le sens propre, vous voyez. Donc je pense que Illich, il a commencé vraiment très profondément à réfléchir là-dessus. Lui, il a fait le choix, en fait, de s'éloigner énormément de ce système de santé. Il est mort d'un cancer à la fin, il n'a pas voulu...
Il ne s'est pas soigné. Hein.
Non, il n'a pas voulu se soigner. On peut quand même rappeler que même si la part de la médecine dans la progression de l'espérance de vie est probablement faible, peut-être de l'ordre de 20%, c'est-à-dire c'est pas beaucoup. Hein. Si l'espérance de vie progresse, c'est probablement l'alimentation, la diminution des accidents et l'hygiène. Voilà, c'est ça qui est très important. Alors,
la médecine, l'hygiène, c'est non. Enfin,
non. Non, non, la médecine, c'est Pasteur. L'hygiène, c'est Pasteur. C'est lui qui le premier a commencé à comprendre qu'il y avait des microbes. Et donc, avant d'opérer quelqu'un, il valait mieux se laver les mains. Voilà. Mais ça a changé. Voilà. Et pourquoi maintenant les opérations chirurgicales sont si sécures sur le plan infectieux? C'est parce que... Voilà. Et on sait bien actuellement que face à cette épidémie virale et où, en gros, on n'a pas de traitement, en tout cas curatif... Eh bien, l'hygiène reprend sa place. Donc, pour revenir à Illich, parce qu'on n'est pas là pour parler tellement du coronavirus,
comment il aurait vu ça, alors? Il n'aurait pas eu le sentiment que, voilà, une sorte de pouvoir médical supplantant le pouvoir politique
En tout cas, je pense qu'il aurait dit peut-être quelque chose, moi je dirais, autour de la prévention. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose dans la médecine qui était tellement plus gratifiant d'avoir des médicaments et un traitement qu'on a oublié la prévention. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Donc là, il y a une sorte de perversion de la santé que Illich a beaucoup dénoncé. Oui.
Il y a des choses peut-être à dire sur...
Non, j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais. Je pense qu'effectivement, là, par rapport à ta phrase qui est un petit peu une un peu cynique, le malade, après son parcours de soins, meurt guéri. Je trouve qu'il faudrait vraiment prendre sa distance par rapport à ça, surtout actuellement.
Oui.
Parce que effectivement, si on considère que il y aurait tout un aspect complotiste qui viendrait se greffer à ce qu'on nous demande de faire et de nous contraindre, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la réalité des choses. Et cette réalité des choses, elle est dans une connaissance incomplète, certes, mais quand même posée de certaines réalités. Un vaccin, pour autant effectivement qu'il soit anti-naturel dans la mesure où effectivement on ne le trouve pas dans la nature, on ne va pas le cueillir et on peut le manger comme une feuille de persil, un vaccin est quelque chose qui a fait ses preuves.
Mais je t'arrête, Gabriel. Le vaccin, c'est quelque chose d'hyper naturel. Quand Pasteur pense à la vaccine, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la vaccine, c'est-à-dire le petit truc, ça vient des vaches.
Hein. Tout à
vaccine,
fait,
ça vient
fait.
Des vaches. Il l'inocule dans le bras de quelqu'un, ça fait du pu, et ensuite il prend un petit peu de pu localement et il va le mettre chez l'autre.
Oui.
C'est comme ça que ça se passait au
tout
départ. On faisait pas de purification, on faisait pas de comme ça. Hein. Voilà, ce qui d'ailleurs posait des problèmes.
On vient loin, hein,
puisque.
Oh là là.
Puisque, en particulier, il y a eu énormément de risques de transmettre en même temps la syphilis, hein, voilà, à l'époque de Pasteur. Hein, voilà. Donc, quand même, la vaccination, les vaccines, Pasteur, il a remarqué que les filles qui traitaient les vaches et qui avaient attrapé la vaccine, elles n'attrapaient pas la variole. Voilà, et il s'est dit, tiens, il y a un truc entre les deux. Voilà.
Non, juste un mot, c'est,
après,
c'est pour éviter de faire un décloisonnement, là, oui. Donc là je prône en sens inverse de ce que je disais tout à l'heure, mais dans le bon sens, un décloisonnement qui consisterait à dire je ne vois dans le vaccin qu'un enjeu économique, qu'une réalité concurrentielle, et moi je me situe à l'extérieur de ça. Bon, alors, c'est des réalités connexes qui existent bien et sur lesquelles il faudra effectivement se pencher aussi, mais un vaccin reste un vaccin. Et devant une pandémie, c'est encore la meilleure façon de s'en sortir.
Ouais, moi, je parlais surtout du fait qu'on avait l'impression parfois que c'était Jérôme Salomon, le président de la République, plutôt qu'Emmanuel Macron, hein, que le pouvoir médical avait pris une importance quand même depuis l'apparition de la Covid.
Sur les décisions qui sont prises, je ne sais pas du tout ce qu'il en aurait dit. Par contre, effectivement, tu as raison, je crois que sur les modalités de fonctionnement qui sont extrêmement verticales, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un pouvoir médical ou d'un pouvoir politique, et la manière d'imposer donc des règles de fonctionnement sans laisser la possibilité d'adaptation, de discussion, d'ajustement...
Le Parlement n'existe plus quand même depuis un an ou presque.
Oui, enfin, je pense que là, il serait très surpris et pas très d'accord, probablement, oui.
Sûrement.
On arrive au terme de cette émission. Est-ce que vous voulez conclure par une phrase ou deux sur Ivan Illich ? Il faut le relire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donner peut-être un ou deux titres d'Ivan Illich, des choses qu'il faudrait
On
relire.
Peut en tout cas donner le livre de Philippe Djian, parce que je trouve que c'est une très bonne...
Jean-Michel Djian. Philippe, c'est des romans.
Oui, c'est vrai. parce que c'est une très bonne introduction. Puis alors, ça se lit extrêmement facilement, comme une espèce de roman. C'est très chouette à lire. On voit bien son parcours. Et puis l'essentiel de sa pensée. Mais en même temps, je trouve que dans ces livres, on n'atteint pas la profondeur de la réflexion d'Illich.
Donc c'est une introduction, on va dire.
C'est une introduction, une bonne introduction.
Jean-Michel Djian, Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir, c'est aux éditions
Du Seuil.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci, chers auditeurs et auditrices. Merci à Simon, Régie Technique. Je vous rappelle que cette émission, vous pourrez la réécouter, bien évidemment, sur notre site www.radiorentiel.fr. À très bientôt.